Hey, Tampoco bala, tuque, truque, tuque, tac, tuque, toca, tuque, riga, tuque, raga, tuque, riga, ragunana, bebe, minuca, petit, capuru. En cuelico, ba, tuque, truque, tuque, tac, tuque, toca, tuque, riga, tuque, raga, tuque, riga, ragunana, bebe, minuca, petit. Tampoco bala, tuque, truque, tuque, tac, tuque, toca, tuque, riga, tuque, raga, tuque, riga, ragunana, bebe, minuca, petit, capuru. En cuelico, ba, tuque, truque, tuque, tac, tuque, toca, tuque, riga, tuque, raga, tuque, riga, ragunana, bebe, minuca, petit.
Il démarre le C15 devant sa cave. Va faire demi-tour devant le quartier anglophone, des voisins gallois, écossais, à qui il ne faut surtout pas dire qu'ils sont anglais. Ça lui va bien, lui, le Québécois, qui maintenant se sent d'ici. D'ailleurs, les copains du coin lui disent souvent qu'il connaît plus d'endroits et de monde que dans le Minervois. Si on lui avait dit ça, il y a un peu plus de 15 ans, qu'il vivrait un jour dans un hameau de 50 habitants et qu'il rejoindrait tous les jours ses vignes en ses 15. La voiture tressaute sur le chemin en pierre, passe sous l'antenne téléphonique toujours pas branchée, qui permettra de le joindre plus facilement mais qui gâche un peu le paysage, longe les vignes des voisins, toutes passées en bio, près de 50 hectares, puis s'arrête près de la vigne de la Pinède, sa première vigne. Une vigne bordée de pins, de chênes verts, dont les rangs sont parsemés d'herbes, un peu de tout, de l'hélichryse, du mélilot. Un abricotier et un cerisier ont poussé entre les ceps, il a juste fallu jeter un noyau. Du haut de la Pinède, il surplombe un ruisseau et déguste le frais du vent. Il scrute la friche sur le vallon d'en face, sur laquelle il veut replanter de la vigne, peut-être du cinceau. Avec cette nouvelle parcelle, ce devrait être parfait, une production respectueuse de la nature, à l'empreinte écologique faible, et qui lui permettra de vivre mieux de ce travail, tout en lui laissant toujours un peu de temps pour danser et jouer de la musique. Adicias Bravemunde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Glouglou dorénavant sur Radio Languedoc Narbonne, mais toujours aussi sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, l'émission qui s'intéresse aux vins vivants et qui fait le portrait de celles et ceux qui le font, continue. Et c'est maintenant du Larzac jusqu'aux Corbières que nous allons promener notre micro pour écouter ces producteurs qui font le choix de se passer de tout intrant et de tout produit chimique à la vigne comme à la cave et cherchent à faire des vins joyeux ou gastronomiques, des vins qu'on aime boire et reboire, des vins 100% raisin qui reflètent l'âme du terroir et celle du vigneron ou de la vigneronne. Nous allons donc aller de l'Aude à l'Hérault, du Minervois au Mont d'Orbe, des Corbières au Faugérois, dans les vignes, les chais, mais aussi dans les studios de radio. Et aujourd'hui, nous sommes pour la première fois dans le studio de Radio Languedoc à Narbonne. Merci plat, Radio Languedoc, de nous accueillir. Pour vous faire découvrir ces artistes du raisin et de la vinification, je suis toujours accompagné de mes trois fidèles chroniqueurs. Corinne Escafite de la cave Au Vin Vivant à 7. Adicias, Corinne.
Adicias.
Frédéric Lambeuf du Picamandi La Puisse Salicon. Adicias, Fred.
Adicias.
Et de Thierry Guichard de la Part de l'Ange à Valras-Plage, prochainement à Narbonne, qui est là parmi nous, mais qui interviendra au micro lors de la prochaine émission. Corinne, Frédéric et Thierry, merci d'avoir empilé pour une saison. Vous allez nous aider à décortiquer les vins et les méthodes de travail des vignerons et vigneronnes qui passeront à notre micro. Mais vous nous régalerez aussi d'une chronique récurrente. Corinne Escafite, vous nous parlerez des livres que vous aimez sur les vins qu'on aime. Et pour cette première émission de la saison, qu'avez-vous lu ?
Alors pour cette première émission, je vous parlerai du Glou Guide qui en est déjà à sa 5e parution aux éditions Cambourakis.
Parfait. Frédéric Lambeuf, vous continuerez de traquer les faiseurs de bonnes choses dans votre chronique du verre à l'assiette. Qui avez-vous rencontré pour cette émission ?
Alors, j'ai rencontré Ute Swenzig, qui est la femme du vigneron nature Axel Prüfer, le temps des cerises. Mais c'est celle qui se revendique productrice de fruits et légumes et paysan glacier que l'on va rencontrer à Bédarieux en dégustant un sorbet à la poire.
Très bien, nous en salivons déjà, et pour retrouver la plume acérée de Thierry Guichard et sa libre correspondance, il faudra donc attendre le mois prochain. Cette introduction de reprise étant faite, je peux accueillir notre premier invité de la saison. Il est vigneron à Aiguevive dans le Minervois, plus exactement dans le hameau de Paguignan. C'est Antoine Cauchy, domaine de la Cessière. Adicias Antoine.
Adicias.
Et bienvenue dans Glouglou, merci d'avoir répondu et accepté notre invitation. Alors, nous allons parler de vous, de votre parcours, plutôt atypique, de vos vins, de votre manière de travailler, et notamment de votre inclination pour l'agroécologie, D'ailleurs, nous en profiterons pour aller à la rencontre de l'association Chemin Cueillant à Olonzac et de sa coordinatrice Héloïse Sonal, avec qui vous travaillez de temps en temps. Mais avant cela, pour les nouveaux auditeurs de Glougou, nous ne sacrifierons pas à la question rituelle de début d'émission. Alors pour vous, Antoine Cauchy, c'est quoi un vin nature ?
Ah ah, oui. Alors, qu'est-ce qu'un vin nature pour moi ? Selon moi, on a tendance souvent à limiter le vin nature à un vin sans intrants, donc sans sulfite et sans produit œnologique quel qu'il soit. Pour moi, c'est un peu limité cette façon de voir, parce que moi, je verrais plus le vin nature, pour moi, c'est un vin paysan, un vin de vigneron. Il ne s'agit pas seulement de rien mettre d'autre que du raisin dans un vin et mettre des étiquettes déjantées ou de le protéger avec je ne sais quel azote à la mise ou des trucs comme ça, ou filtrer à l'os pour faire du vin nature. Donc oui, c'est ça. Pour moi, le vin nature, c'est un vin de vigneron, donc quelqu'un qui s'occupe de sa vigne d'un bout à l'autre. Évidemment, on ne peut pas être ayatollah non plus, on peut avoir des coups de main ou parfois échanger des raisins avec le voisin. Ouais. Mais bon.
Pour vous, c'est important de s'occuper du sol, des raisins,
pour moi,
de la vigne, toute la chaîne.
Oui, c'est ça. Pour moi, ce n'est pas un vin de négoce.
Mmh. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, merci. Eh bien, justement, nous allons voir comment vous le faites. Et comme vous y mettez beaucoup de vous dans votre vin, je vous propose qu'on parle de vous, de votre parcours, pour comprendre un peu ce qu'il y a dans les bouteilles du domaine de la Cessière. Alors Antoine Cauchy, vous n'êtes pas né au milieu des vignes, loin de là. Comme votre accent nous le laisse entendre, vous êtes né et avez grandi au Québec.
Voilà, oui, je suis Montréalais d'origine.
D'accord, et donc on ne peut pas dire que vous êtes tombé dans la marmite du vin quand vous étiez petit.
Il y avait du vin qui se buvait à la maison, on goûtait volontiers, même petit, dans le verre des parents. Au début, on n'aimait pas, mais c'est vrai que très vite, le vin m'a intéressé comme ça, en amateur.
Notamment des vins de cette région, de France et du sud de la France
Oui. Mais au Québec, en fait, c'est très populaire, les vins du Languedoc, parce qu'on aime bien les vins corsés, mais avec du fruit. C'est vrai que ça aide à passer l'hiver aussi.
D'accord. Alors, votre première vocation n'a quand même pas été vigneron. On va voir comment vous êtes venu dans le milieu du vin. D'abord, vous avez été musicien. Vous avez eu une longue formation.
Oui, j'ai fait mon conservatoire en clavecin. Et puis après, je me suis redirigé.
Donc, de longues années dans praticien.
La vingtaine passée. Et puis, à un moment, je me suis dit que finalement, c'était pas pour moi tout à fait ce monde-là. Et puis, j'ai voulu aller vers autre chose. Le vin m'intéressait beaucoup. Alors, j'ai fait un cours de sommellerie. Et c'est ce qui m'a amené en France, parce qu'on avait un stage à la fin du cours. Donc, moi, j'ai même atterri en Minervois directement. C'est là que mon prof de sommellerie m'a envoyé, parce qu'il connaissait un domaine où le vigneron était très calé, était très à fond dans les lectures, la culture viticole. Il savait que ça m'intéressait vachement.
Ça serait très formateur pour vous. Donc, c'était voilà. Le domaine de Santeil à Siran.
Ouais, le clos Santeil à Siran.
Vous êtes arrivé en 2007, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Et donc, vous y avez passé d'abord le stage, c'était 3 semaines. Mais vous, vous êtes dit à faire le voyage, je ne vais pas rester seulement 3 semaines, je vais y passer un peu plus de temps pour apprendre.
Voilà, j'ai pris un visa pour pouvoir travailler pendant un an. Donc j'ai travaillé à la vigne, à la cave, j'ai vraiment tout découvert là-bas. Et ça m'a plu.
Très bien. Alors, passé cette première année, vous êtes quand même reparti au Québec, mais vous êtes souvent revenu, donc du coup, vous l'avez dit, ça vous a plu, vous avez pris un peu le virus du vin, vous êtes revenu pour travailler régulièrement ici dans le Minervois, mais vous avez aussi accumulé d'autres expériences. Je crois que vous êtes allé 3 mois et demi à Gaillac et puis 2 mois chez Jean-Pierre Frick aussi, en Alsace.
Voilà, oui. Donc, j'avais découvert les vins de Jean-Pierre chez Patrice Lescarré à Gaillac. Et puis, donc ensuite, je suis allé faire les vendanges là-bas pour découvrir une autre manière de faire, une autre région. La vinification dans les foudres, qui est incroyable, qui est un des plus beaux contenants, d'après moi. Donc oui, j'ai passé 2 mois et demi là-bas à vendanger, à travailler à la cave, à rentrer dans les foudres pour les laver et tout.
Rétrospectivement, oui, voilà. Rétrospectivement, que vous ont apporté ces périodes, ces expériences
Découvrir d'autres manières de faire, une vinification biodynamique, avec très peu d'intrants, voire pas du tout, parce que les deux domaines, et à Gaillac et en Alsace, faisaient une partie de leur vin en nature, et de plus en plus d'ailleurs maintenant. Donc oui, ça changeait aussi du domaine plus conventionnel où j'avais fait 3 années à Santeil.
D'accord. Voilà. Donc là, est-ce qu'à cette époque, vous commenciez déjà à songer à vous installer un jour comme vigneron et à faire votre propre vin ?
Oui, j'en rêvais. Je voyais un peu mal comment j'y arriverais parce que j'avais pas trop d'économie. Mais quand je faisais des tours de vélo dans le Minervois, je remarquais des vignes magnifiques et je me disais, oh, mais celle-là, il faudrait que je vois à qui elle appartient, s'il n'y a pas moyen de... Ça me faisait rêver.
C'est une anecdote sympa pour raconter comment vous avez constitué ou pensé constituer votre vignoble. Vous êtes cycliste sur la route et vous partiez avec un petit carnet dans la poche et vous cherchiez quel type de vigne. Vous repériez des vignes en disant, tiens, si un jour elles sont à la vente peut-être, ou en fermage, peut-être ça pourrait m'intéresser, c'est ça ? Et quel type de vigne, du coup, vous attirez votre attention ?
Eh bien, justement, c'était souvent des vignes un peu... isolé, malheureusement, bon, il y en a, des fois c'est un peu trop isolé, côté sanglier c'est compliqué, mais des belles vignes en tout cas, des endroits où on se sent bien, où il y a une belle vue, où travailler est agréable, je pense qu'un bon vin ça se fait dans un bel endroit, pour moi,
en tout cas. Et on y reviendra, mais j'imagine que le côté préservé, avec aussi de la biodiversité autour, ça comptait aussi, quoi. Voilà, au-delà de l'aspect esthétique, il y a sur l'aspect culturel, vous projetiez aussi une meilleure manière de travailler dans ces coins, ce type de.
Effectivement, il faut des haies, des boisés, des. La monoculture, une mère de vigne, pour moi, c'est un peu une aberration parce que. On se prive de tellement d'aide, de toutes les petites bestioles, que ce soit la faune, une flore diversifiée qui justement attire cette faune et qui peut tellement être à notre service, entre guillemets, parce qu'ils sont plutôt à leur propre service, évidemment. Mmh. Et nous, on essaie de les aider aussi de notre côté, donc c'est un cercle vertueux.
Alors, par un concours de circonstances, une rencontre en 2012 avec le Clos du Gravillas vous a permis d'acquérir votre première vigne, la fameuse vigne de la Pinède, c'est ça ?
Voilà, la vigne de la Pinède et une petite aussi, la vigne du cimetière, qu'on dit, parce que bon, c'est à côté du cimetière. Voilà.
Une façon assez concrète de nommer les choses.
De vieux Carignan, qui sont magnifiques, qui donnent... de vin super, des Carignans avec du fruit, ce qui est... assez rare, je trouve. Souvent, les Carignans, c'est très, très rustique, mais là, c'est peut-être le terroir qu'on appelle la formation d'Assignan, qui est calcaire avec des argiles, mais plutôt fluviaux que marins. Et ça donne, je pense que ce fruit vient de là.
Nous aurons l'occasion d'en reparler en dégustant en fin d'émission les cuvées que vous nous avez apportées. Et pour continuer à comprendre comment s'est constituée votre aventure, donc vous achetez cette vigne, vous l'aviez dit, vous n'aviez pas forcément un capital, donc vous vous êtes fait aider, je crois, parents, d'amis, pour acheter cette première vigne. Vous avez donc commencé à vinifier dès 2012, vous avez fait votre premier millésime, c'est ça, avec ces deux premières parcelles.
C'est ça.
Et déjà du vin est reparti au Québec
C'était la deuxième année, en 2013, d'accord. Ouais. En 2012, c'était un essai, comme ça, c'était que j'ai mis en bib et que j'ai distribué aux copains qui m'avaient aidé, mais sans plus.
Et donc en 2013, c'est vraiment vous avez mis ça sur le marché, quoi, y compris donc dans votre pays d'origine, où là-bas, donc, vous avez rencontré un agent, enfin quelqu'un qui vend votre vin et qui vous a aidé, lui, à acquérir votre deuxième vigne, c'est ça
C'est ça.
L'année suivante, quoi.
Ouais. Donc, grâce à Marco, j'ai pu, qui est cet agent justement, j'ai pu acheter ces seconds Carignan, qui sont très jolis aussi, pas très loin des autres en plus. Et voilà, donc commencer à grossir peu à peu, même si ça reste très petit.
Aujourd'hui, vous avez environ 4 hectares de vignes, donc certaines que vous avez acquises, vous en avez, je crois, une en fermage. Est-ce que vous diriez que vous êtes la preuve que finalement on peut s'installer comme vigneron sans avoir un capital de départ ou sans être un héritier? C'est difficile.
J'ai la preuve que c'est difficile.
Mais c'est difficile, mais on
parce que même après 10 ans, j'en vis pas encore tout à fait, donc c'est pas évident, mais je commence à voir la lumière au bout du tunnel.
Vous êtes persévérant. Avec d'ailleurs une nouvelle vigne qui est rentrée là dans votre vignoble, vous en parlerez peut-être tout à l'heure. Du coup, quel bilan vous tirez après ces 15 ans de vie dans le Minervois comme vigneron et une dizaine à peu près comme vigneron à votre compte, justement? Vous dites que c'est difficile, mais vous semblez ne pas avoir perdu quand même la foi dans ce métier.
Oui, je suis toujours en vie. J'arrive à me nourrir, à me loger. J'ai plein d'amis. Je me régale. Je prends racine de plus en plus dans ce terroir qui est si éloigné de mon lieu de naissance. Donc, oui, ça se passe bien.
Je me tourne vers Corinne Escafitte. Est-ce que Corinne, vous auriez une question subsidiaire à poser à notre invité du jour?
Oui, c'est peut-être de faire un lien. En fait, tu vas me dire si tu le vois, mais dans les pratiques artistiques que tu peux pratiquer, justement, la musique, c'est très présent dans ta vie, la danse aussi. Et est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de cette liberté qu'on peut retrouver dans les vins vraiment nature, avec ces moments de danse contact, notamment, ou de musique partagée? Est-ce que c'est dans l'équilibre de ton métier te permet aussi, ta vie te permet d'avoir ces pratiques très présentes? Mais est-ce que tu vois un lien avec la façon dont tu fais le vin et dont tu t'occupes des vignes?
Peut-être que le lien, ça serait la façon de vinifier qui est vraiment la... J'attends rien de précis et je vois ce qui se profile et j'accompagne le vin plutôt que de mettre de vouloir faire un tel type de vin d'une telle manière. Et je récolte, j'ai telle maturité, tel degré, finalement on a plus de degrés qu'on croyait, ou moins, ou les raisins sont pas si mûrs, mais il y en a d'autres qui sont très mûrs, donc il faut réagir un peu à ce que la vigne nous propose. Et il y a probablement un lien là-dedans, comme dans la danse à plusieurs, où il faut vraiment être attentif à chaque instant de ce qui se passe à côté et d'être dans la réaction instinctive.
Merci de ce parallèle, Corinne, puisque vous avez pris la parole, gardez-la. Et pour votre chronique livre du jour, vous nous parlez donc du Glouguide.
Alors, en ce mois de septembre, nous sommes heureux de vous retrouver, auditeurs, auditrices, libres buveurs et buveuses, avec une audience élargie, qui plus est. Septembre, la rentrée. Pour ce qui nous intéresse ici, les raisins aussi font leur entrée en cave. Les vendanges sont bien entamées, voire déjà finies pour beaucoup dans la région. Les vinifications sont en cours. Septembre, c'est aussi le mois des affreuses foires au vin dans la grande distribution. Un exemple type de ces animations commerciales aux antipodes de tout ce que l'on défend au quotidien dans nos commerces, mes confrères et moi, et ici, dans Glouglou. Ne cédez pas aux sirènes de ces fausses bonnes affaires, chers auditeurs et auditrices. Toutefois, et pour répondre au souci tout à fait légitime de chercher à boire bon et sain, mais à un prix abordable, à un prix juste qui, d'une part, rémunère correctement le colossal travail des vignerons et leur engagement dans la préservation et l'entretien des écosystèmes, mais qui, d'autre part, par sa plus ou moins grande modicité, vous permet aussi de picoler régulièrement. Voici donc le Glouguide dans sa 5e livraison. Alors évidemment, ce n'est pas d'un guide à l'ancienne dont je veux vous parler, qui distribuerait des bons points sous forme de notes et de classements, non, surtout pas. Le Glouguide explose plutôt les codes du genre. C'est une sorte de guide gonzo décoiffant, tout à fait raccord avec l'univers des vins nature. Depuis 2018, les éditions Cambourakis nous régalent chaque année de ce Glouguide présentant des vins naturels à coût modique. Les trois premières éditions compilaient chacune 150 cuvées à moins de 15 euros. En 2021, le Glouguide numéro 4 se présente comme un hors-série consacré à des vins encore plus hors normes. Terroirs méconnus, cépages rares, vinification et élevage originaux. Le Glouguide numéro 5, paru tout récemment, en août 2022, reprend le fil initial de la série, mais présente désormais 200 cuvées à moins de 20 euros. Davantage de cuvées donc, mais avec un plafond de prix augmenté. Parce que c'est ainsi, malheureusement, tout augmente, des matières premières, le verre, le carton, aux incertitudes climatiques. Mais le principe du guide garde son cap. Mettre en avant des vins naturels, honnêtes, bons, que dis-je, très bons, et pas élitistes. Une démarche qui s'incarne dans le ton même de l'écriture, partagée entre trois plumes. Antonin Yomi Amunategui, journaliste, éditeur, activiste du vin au naturel, un des cofondateurs du syndicat de défense des vins naturels. Olivier Grosjean, dit Olif, auteur notamment d'un excellent blog, le blog d'Olif, et adorable compagnon d'apéro. Et Irène Languin, dite Dame Glou, journaliste culturelle suisse. Tous trois passionnés de vin nature et cultivant un style oscillant entre la poésie et l'argot, toujours éclairé, inspiré, très bien informé, voire brillant, parsemé d'envolées lyriques, de métaphores dégainées tous azimuts, de petits textes courts, ciselés, qu'on déguste à grande lampée. En bref, ça vibre, il y a du fond, c'est vivant, tout pareil que les vins qu'on aime. Alors, chers libres buveuses et buveurs, n'hésitez pas à joindre le plaisir d'une lecture vibrillonnante à celui de la picole éclairée et munie de votre glouguide, évidemment acheté chez votre libraire, foncez chez vos cavistes nous réclamer ces cuvées démocratiques.
Merci Corinne pour cette chronique. Est-ce que c'est aussi un outil pour les professionnels, les glouguides? Ça vous fait découvrir aussi des vignerons, des vigneronnes que vous ne connaissiez pas?
Oui, tout à fait. On s'en sert effectivement. Nous, soit on est content de retrouver les découvertes qu'on avait déjà fait récemment ou depuis plus loin, puisque maintenant on est à la cinquième édition. Mais oui, ça sert aussi de découverte. On se dit, tiens, ça, j'en avais déjà entendu parler ou pas du tout. Et là, notamment, dans le glouguide numéro 5, il y a beaucoup de jeunes domaines récemment installés. Et ça va être l'occasion de dénicher ces pépites.
Très bien. Merci beaucoup, Corinne. Nous allons poursuivre notre découverte du vigneron Antoine Cauchy, domaine de la Cessière à Aiguevive. Mais avant cela, une première pause musicale. Nous écoutons le choix d'Antoine Cauchy. Il s'agit des pièces de clavecin, le prélude de D'Anglebert. Le prélude de D'Anglebert, les pièces de clavecin, le choix musical d'Antoine Cauchy, aujourd'hui dans Glouglou sur Radio Languedoc, Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Le clavecin, vous avez choisi Antoine Cauchy parce que c'est justement votre instrument, celui que vous avez pratiqué de longues années au conservatoire, mais que vous jouez encore.
crois.
Et ben, là, clavecin, non, parce que j'ai un piano à la maison.
D'accord.
Par contre, ce morceau, oui, c'est un morceau que j'affectionnais et j'adorais jouer. Plus compliqué pour le piano parce que le foisonnement de notes est vraiment un superbe rendu au clavecin, mais c'est un peu plus compliqué au piano. Mais c'était pour faire découvrir aussi.
Très bien, c'est vrai qu'on a rarement l'occasion d'écouter du clavecin. Et merci de nous, en vous découvrant, de nous faire découvrir ça. Alors revenons à nos moutons et revenons plutôt à votre parcours de vigneron. Alors on a compris que vous êtes formé essentiellement sur le tas. Mais vous continuez à vous former régulièrement, grâce notamment à l'association Chemin Cueillant à Olonzac, une association loi 1901 créée en 2009, qui fédère et accompagne les paysans et jardiniers en agroécologie sur le territoire du Minervois. C'est quoi l'agroécologie paysanne et que fait concrètement cette association? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre d'Héloïse Sonal, la coordinatrice de l'association. Bonjour, je suis dans les locaux de l'association Chemin Cueillant à Olonzac en compagnie d'Héloïse Sonal, sa coordinatrice. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Et merci de nous recevoir. Donc c'est Antoine Cauchy qui nous a mis sur votre piste. Il est administrateur, je sais que vous l'accompagnez aussi en tant que vigneron paysan. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez raconter un peu quel est le cœur de métier de votre association, comment vous accompagnez les agriculteurs du Minervois?
Eh bien, du coup, nous, l'association Chemin Cueillant, donc on existe depuis 2009. Ça a été fondé par trois paysannes plus exactement. Et donc, initialement, l'idée, c'était pour eux d'échanger sur des savoir-faire autour de l'agriculture naturelle, l'agroécologie. Et puis, petit à petit, cette association a grossi. Et aujourd'hui, donc, il y a une centaine d'adhérents à peu près. Et on est trois salariés à bosser sur l'asso. L'objectif, c'est d'accompagner sur l'amélioration des connaissances et des savoir-faire en agroécologie. On fait beaucoup de la formation. On met aussi beaucoup en lien les paysans entre eux, donc pour qu'ils puissent échanger leurs connaissances, puisque c'est eux qui ont bien souvent la meilleure expertise. On organise également des visites de ferme et puis on fait des expérimentations aussi. Donc on a une chargée de mission qui est un peu spécialiste là-dessus et qui met en place des protocoles avec les paysans, donc élaborés par les paysans, et on fait ça directement sur les fermes, ces expérimentations.
Donc ce que nous racontent nous les vignerons au micro de cette émission depuis un certain nombre d'années, c'est comment ils décident de se passer d'intrants, de produits phytosanitaires à la vigne, mais aussi à la cave. Donc vous, c'est ça, c'est ce que vous essayez de promouvoir auprès des vignerons et auprès d'autres paysans, comment se passer de produits phytosanitaires et avoir des alternatives dans sa production?
Oui, exactement. Ouais, nous, on travaille que avec des méthodes naturelles et l'idée, c'est de travailler pas contre la nature, donc en la tuant avec des insecticides et des pesticides, mais avec la nature, donc en s'appuyant sur les processus biologiques. Et voilà, et du coup, on travaille beaucoup sur les questions de comment augmenter la fertilité des sols. Donc pour ça, on accompagne l'ensemble des paysans à devenir autonomes sur lire leur sol, savoir comment ça fonctionne, faire leurs propres analyses de sol. Et on les accompagne sur les pratiques aussi, et notamment par la mise en place de couverts végétaux. Qui est l'idée de gérer l'enherbement par le fait de choisir les herbes qu'on met dans ces vignes. Et qui, donc des herbes qui peuvent également améliorer la fertilité, la structure du sol. Voilà.
Et est-ce que vous avez l'impression que ça répond bien? Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes chez les vignerons, mais aussi chez les paysans en général, pour ce genre de pratiques, de formations?
Nous, c'est sûr qu'on a de plus en plus d'adhérents. Chaque année, on augmente de 10% à peu près, 10-15%.
Donc, c'est que les pratiques évoluent quand même.
Donc, c'est que les pratiques évoluent. Après, pour autant, c'est pas encore satisfaisant. Moi, j'ai vu il y a pas longtemps que les produits phytosanitaires, la vente de produits phytosanitaires continue à augmenter. Pour l'instant, ça évolue, mais ça reste quand même globalement très insuffisant à mon sens par rapport à là où on devrait en être aujourd'hui et au niveau de conscience auquel on est de la dangerosité de ces produits.
Alors, on se parle dans un contexte conjoncturel un peu important pour vous, parce qu'il y a une fête, votre traditionnelle fête d'automne, qui va avoir lieu dans les prochains jours à Asiane, le 30 septembre et le 1er octobre. C'est un des temps forts de votre association. Racontez-nous un peu ce que on va pouvoir découvrir et déguster à Asiane le week-end prochain.
Oui, alors ouais, c'est un super temps fort. Notre association passe beaucoup d'énergie, de temps à l'organiser. On a une super, super équipe de bénévoles. D'ailleurs, on les remercie beaucoup. Et du coup, on va pouvoir... Donc le vendredi soir, on va organiser ce qu'on appelle une conférence dégustée. Donc là, c'est un spectacle repas concocté par des chefs, des artistes et des paysans. Donc on va pouvoir déguster les produits des paysans de l'association, des paysans locaux. Et c'est un peu mis en scène, il y a un peu d'humour, un petit côté artistique. Et puis surtout, c'est fait par des chefs, donc ce sera probablement très délicieux. Puis samedi, toute la journée, il y aura notre traditionnel marché, donc avec les paysans et les artisans locaux, tous en bio, tous faisant des produits à base de matières écologiques. Et puis plusieurs animations sur le marché. Et après, il y aura des conférences et des spectacles tout au long de la journée.
Et puis une fin festive en musique, c'est ça, le samedi?
Ouais, samedi soir, il y aura Graioli. Un groupe qui joue des musiques traditionnelles occitanes et qui mélange ça avec des musiques plus exotiques, plus métissées. Et voilà, ça risque d'être super. Ce sera dansant. Donc voilà, si vous aimez vous déhancher, n'hésitez
donc,
pas à venir.
Donc de la musique, des débats, des bons petits mets à déguster. Voilà, un week-end complet à Asiane avec donc cette fête d'automne de Chemin Cueillant.
Ouais, ça va être super. Venez nombreuses et nombreux, on vous attend avec grande joie.
Merci Loïs Aumale de nous avoir reçus dans les locaux de votre association à Olonzac. Et pour plus d'infos sur l'événement de la fête d'Asiane ou sur l'association en général, il y a bien sûr le site de l'association www.chemincueillant.org et vous pouvez contacter aussi Héloïse et l'association à contact@chemincueillant.org.
Merci.
Merci Héloïse. C'était Héloïse Sonal de l'association Chemin Cueillant. Alors, est-ce que vous serez à Asiane pour la fête paysanne, Antoine Couchy?
Oui, bien sûr.
Vigneron, comme musicien,
comme
les deux.
Un peu de tout.
D'accord, donc cette fête paysanne qui aura lieu... je parle au futur pour les auditeurs de Radio Languedoc. Malheureusement, les auditeurs de Radio Pays des Roux qui nous écouteront un peu plus tard ne pourront... la fête sera passée. Donc c'est le 30 septembre et 1er octobre, c'est ça?
C'est ça.
Alors, on a entendu parler de l'agroécologie, des principes défendus par cette association. Pour vous, c'est quoi l'agroécologie? Est-ce que vous appliquez ces principes dans votre manière de conduire la vigne?
Oui, bien sûr. C'est l'agroécologie, en fait, c'est une manière de réfléchir l'agriculture en y associant l'écologie de tout ce qu'il y a autour, et puis pour que l'agriculture se passe en harmonie avec le reste du vivant alentour, sauvage. Oui, bien sûr.
D'accord, donc c'est pour ça, c'est dans cette démarche-là que vous plantez des arbres fruitiers, vous avez parlé des haies que vous recherchiez, mais les fruitiers, c'est quelque chose qui se faisait plus, mais qui se faisait un peu avant, et que vous avez envie, vous, de redévelopper, de mettre des arbres dans les vignes?
Oui, ils ont surtout été arrachés, les arbres fruitiers, parce que, à cause de la machine, du tracteur, et moi, comme je travaille sans tracteur, je travaille pas le sol, je conserve un enherbement permanent, pour la vie du sol aussi, je peux me permettre de rajouter des arbres fruitiers, d'autant plus que les arbres à noyaux, comme les abricotiers, les pêchers un peu plus compliqués sur sol calcaire, mais les cerisiers vivent en symbiose avec les amandiers, avec la vigne. Donc il y a un échange bénéfique. Ils peuvent même créer de l'ombre déjà, aller chercher, tirer de l'eau, même des fois plus profond que ce que fait la vigne, dépendamment de l'enracinement des arbres. Ils sont un havre de paix pour plein de petites bestioles aussi. Je pense que c'est que du positif. Mmh. Ouais, voilà. Et puis en plus, on peut manger... Des abricots, des cerises, ouais, en travaillant
en
à la vigne.
C'est voilà. Pas désagréable.
Ah non, pas du tout.
D'accord. Et quand on parle d'agroécologie, dans votre manière de travailler, travailler peu les sols, vous m'avez dit aussi avoir le souci d'avoir une empreinte écologique faible aussi. Pas d'irrigation, bien sûr, mais peu de rejet de carbone. Ça vous importe aussi dans le sens de votre manière de travailler, je pense.
Oui, oui, oui. Ben oui, en ces temps où on se pose même parfois des questions sur notre survie, ou en tout cas comment on va vivre plus tard sur Terre et même en ce moment, je crois que surtout quand on fait du vin, qui nous est essentiel, mais bon, peut-être pas autant que le blé ou que l'eau. Je pense que quand même, c'est pas plus mal d'avoir une empreinte carbone et écologique la plus restreinte, la plus douce possible, parce que bon, c'est chouette de boire du vin, de faire la fête avec les amis, c'est un bien culturel que je voudrais pas voir disparaître, mais en même temps, je pense qu'il faut faire notre part aussi, et bon, utiliser des terres qui sont presque impropres à toute autre culture, déjà, ce que la vigne peut faire. Non, cet été, on voyait bien que dans les coteaux, tout ce qui restait de vert, c'était la vigne.
Malgré la sécheresse, ouais, il y a eu une bonne récolte plutôt cette année.
Oui, quand même, en plus, mais surtout les cépages locaux.
Oui, ouais, tout à fait, qui s'adaptent bien, qui font encore la preuve qu'ils s'adaptent bien.
Ici, une Syrah pas irriguée, c'était compliqué cette année.
Merci de tout ce que vous nous racontez. Il va bientôt être temps de déguster vos vins, Antoine Cauchy, pour parler concrètement maintenant de tout ce qu'il ça signifie. Mais en attendant, c'est l'heure de la chronique du verre à l'assiette de Frédéric Lambeuf.
Alors, quand on arrive à Bédarieux, point de rencontre de la vallée et des monts d'Orbe dans le parc régional du Haut-Languedoc, au nord de Béziers, on cherche un peu les endroits sympas pour se poser. Il y a bien sûr chez Christine, rendez-vous incontournable de tous les amoureux du vin nature, sur la place de la mairie. Et le local, en bas de l'avenue, petite épicerie écologique et restauration du midi. Cet été dernier, en faisant le constat qu'il y manquait un glacier, Uteux s'est lancé dans un nouveau projet à la fois personnel, avec la rue de la Glacière, et fédérateur en ouvrant un lieu en devenir qui accueillera une boutique paysanne. Uteux est originaire d'Allemagne de l'Est, mais a toujours voulu vivre en France. À la chute du mur en 89, le français est proposé en langue étrangère. Elle l'apprend et fait un séjour à Paris en tant que fille au père. En 98, elle décide avec son compagnon Axel de partir dans le sud de la France, lui pour éviter un pénible service militaire et elle pour enfin vivre son rêve. Uteux va mener des études d'architecture à Montpellier, pendant qu'Axel travaillera chez des vignerons et y fera des rencontres incontournables qui lui conduiront en 2004 à lancer son propre domaine, le Temps des Cerises au Mas Blanc, juste au-dessus de Bédarieux. En 2006, Uteux termine ses études. Entre le travail à la vigne où elle s'y sent le mieux et les trois enfants à s'occuper, elle cherche encore sa place. Alors elle s'engage beaucoup au niveau associatif et participe, entre autres, à la Manufacture des Paysages qui, à Octon, va œuvrer pour la cohérence territoriale en posant la question du « comment grandir sans détruire les terres agricoles ?». Travailler la terre, elle l'a toujours vu faire. Elle a le souvenir du jardin potager en Allemagne. Il y a celui dont elle s'occupe pour nourrir sa famille ici et son travail au domaine. Alors quand elle a l'idée de faire des glaces, c'est avant tout à sa production qu'elle pense. Son savoir-faire lui donne le courage de se lancer, entre autres, dans la production pérenne de petits fruits rouges, utile pour ses idées de sorbet. Avec son statut de paysanne, elle suit une formation à la Chambre d'agriculture et lance Rue de la Glacière l'été dernier, en vendant avec sa roulotte réfrigérée sur les marchés de producteurs du samedi et dans les festivals. Mais son projet ne s'arrête pas à sa seule activité. De la grande famille des vins nature, elle en tire le goût pour le bien produire, le bien manger, l'entraide et la solidarité. Elle ne veut pas avancer seule et avec ses contacts ou amis chevriers, maraîchers, apiculteurs, elle aimerait ouvrir un lieu en commun qui proposerait la vente des produits et une restauration rapide n'utilisant que leurs ressources propres. Tout le monde n'est pas disponible ou n'a pas les moyens de la suivre. Alors elle décide que le temps des galères est derrière eux et qu'à son tour, elle peut donner un coup de pouce. Elle a investi en juillet un petit magasin, Place aux Fleurs. C'est aussi son métier et surtout son plaisir de créer un lieu, de penser à l'aménagement, imaginer la décoration. Aujourd'hui, on peut y déguster ses sorbets et glaces, attablés au calme dans le quartier qui revit. Bientôt, le lieu accueillera la fabrique paysanne et deviendra un joli outil pour développer le local et satisfaire les gourmands. Pour ses glaces et sorbets, Uteux n'achète quasiment rien en dehors de sa production et fait en fonction des saisons. Elle complète avec ce qu'on lui apporte ou qu'elle achète à ses collègues. En ce moment, on peut choisir parmi la mûre, la poire, la pastèque et le melon, la pêche de vigne. Il y a aussi la betterave, le lait et miel de bruyère ou lait et concombre. Et enfin, la tomate basilic. La matière première pouvant être abondante au pic de la production, Uteux a commencé à proposer ses glaces à quelques restaurateurs locaux, à qui, pour certains, elle doit apprendre à faire avec les saisons et oublier la carte figée à l'année. Ou bien oser proposer des parfums hors des grands classiques en faisant confiance à la clientèle prête à découvrir. Toujours en mouvement, elle vous donne rendez-vous ce samedi 24 à Bédarieux, place aux fleurs, sur le marché avec la caravane des alternatives paysannes et urbaines de 10h30 à 22h30. Activités, conférences, spectacles et l'occasion de rencontrer ses amis paysans qui investiront la boutique. Uteuse van Zig, glace et sorbet, rue de la Glacière, à la Fabrique Paysanne, 11 place aux fruits, du lundi au samedi de 12h à 18h. Et à partir de 10h le lundi et samedi.
Merci Frédéric Lambeuf. Donc là, on est du côté de Bédarieux. Hein,
Bédarieux, voilà, au-dessus de Béziers.
Merci de cette découverte et du récit de ce parcours qui doit vous parler, Antoine Cauchy. C'est cette manière de se relier collectivement avec d'autres paysans. Il y a quand même des démarches communes à celles des vignerons que vous êtes.
Oui, ben oui. D'autant plus que je fais partie d'une petite boutique paysanne aussi à Bise-Minervois, le comptoir des producteurs, où on en association, on fait des permanences chacun pour tenir la caisse.
En attendant de déguster les vins d'Antoine Cauchy, une deuxième pause musicale. Antoine a choisi Somosour d'Anna Tijoux.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir llevar. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Vamos. Fuego nuestras manos, fuego nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza, color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el
tesoro y juntamos nuestras manos.
Todos los callados.
Somos sourds. Dana Tijoux sur Radio Languedoc, Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous êtes dans Glouglou avec les chroniqueurs Corinne Escafide de la cave au vin vivant à 7, Frédéric Lambeuf du Picamandis la Puce à Licon, et nous recevons aujourd'hui Antoine Cauchy, vigneron à Aiguevive dans le Minervois, domaine de la Cessière, dont nous allons maintenant déguster les vins. Il y a deux cuvées, on commence par le blanc peut-être, c'est ça Alors le blanc... qu'est-ce que c'est cette cuvée? Rappelez-nous son nom, le cépage.
C'est un muscat.
100% muscat.
Oui, un muscat de macération. Je sais que c'est pas très original par les temps qui courent, mais c'est vraiment la technique qui me permet de faire du vin blanc, parce que sinon, comme j'ai pas de moyen de réfrigération, pour le débourbage, ou que j'ai très peu de moyens pour éviter l'oxydation d'un vin blanc traditionnel, ben, je dois travailler comme ça. Voilà.
D'accord.
Donc c'est une macération longue avec les pots. C'est raflé quand même. Je fais des gros verres. Hop.
Longue, c'est-à-dire
Là, il doit y avoir 3 semaines à peu près.
D'accord.
C'est souvent une mode de vinification qui convient bien au muscat, de toute façon.
Oui.
C'est aussi pour, ne pas être que sur le côté très floral de ce cépage, c'est ça? C'est pour lui donner un peu plus de complexité
Voilà, parce que là, il y a la fermentation malolactique qui se fait aussi, donc ça transforme les arômes aussi, ça fait plus sur les fruits tropicaux mûrs et que sur le litchi, la rose qu'on a souvent sur les muscats plus traditionnels.
Ça amène davantage de profondeur, en effet, déjà au premier nez.
On a un nez puissant. Ouais.
Oh oui. Très belle couleur également, un peu ambrée. Ça, c'est la macération assez longue.
C'est ce qu'on appelle un vin orange. Les auditeurs ne le voient pas, mais voilà, il est vraiment orangé, cuivre presque.
Il y a un léger perlant, c'est très gourmand.
Première attaque, oui, vraiment tout de suite très séduit. Beaucoup, beaucoup de fraîcheur. Le nez ne laisserait pas forcément penser qu'on va être d'entrée attrapé par une belle fraîcheur aussi.
Eh ben, ça, c'était 2021, c'était étonnant pour ça, parce qu'il y a beau avoir 14,5, je crois, et avoir fait sa Malo, il y avait énormément de fraîcheur, d'acidité même. On le voit à l'analyse, mais on le sent en bouche, évidemment. Mais...
Alors, vous dites que ce n'est pas original, le vin de macération. Effectivement, beaucoup de vignerons qui travaillent comme vous font ça. Mais je crois que des buveurs qui sont peu habitués à ce genre de vinification sont souvent surpris du vin blanc en macération. Alors là, du muscat en macération, on est loin du cliché habituel et de ce qu'on connaît du muscat quand même. Quoi. On est vraiment ailleurs quand même.
Oui, complètement. Ça, on le voit effectivement selon les demandes. On a soit des gens amateurs qui connaissent déjà, soit c'est quand même mieux et plus facile pour convaincre les gens de pouvoir faire goûter. Les macérations, c'est bien. En plus, ça tient bien au verre. Et c'est vrai qu'il faut parfois amener vraiment... oser faire regoûter, il faut que la personne se laisse tenter. Mais là, vraiment, cette fraîcheur-là lui donne une belle longueur, belle structure.
Et qu'est-ce qui amène la fraîcheur? Alors, ça a été le millésime, ou c'est quelque chose dans la vinification qui lui donne autant...
Oui, je crois que c'est le millésime, parce que les raisins n'étaient pas encore si mûrs que ça, parce qu'on était autour du 20 août. Et déjà, ils commençaient à pasturiller. Mais avant, la maturité complète, donc ça a concentré et les sucres et l'acidité.
D'accord.
Et bon, ben ça justement, quand on voit ça, ben on érafle, parce que les rafles sont très vertes. Et on garde que les peaux et les tanins des peaux et des pépins.
Voilà, et ça, ça va en cuve donc pendant 6 semaines, c'est ça que vous avez dit?
Non, plutôt 3 semaines.
Oui. 3 semaines, pardon. Ouais.
Après, je le coule, et puis voilà.
Et du coup, ce degré, c'est pas trop difficile après pour les fermentations? Ça se passe bien?
Ben, on voit que le vin est un peu trouble. En fait, j'ai dû le mettre en bouteille en août avant les vendanges, parce que
pour libérer les
cuves. Parce que j'ai attendu, mais je n'arrivais pas à faire complètement déposer avec les chaleurs qu'il a fait. Il restait un petit peu de sucre et c'était très compliqué de faire déposer. Mais bon, c'est un peu les aléas d'une petite cave où il n'y a pas beaucoup de cuverie. Et puis,
Très bien. Un très joli vin, en tout cas. Voilà, très... Très surprenant sur ce cépage. Et on va passer sans transition au deuxième. On pourrait juste rappeler le nom peut-être de cette cuvée.
Ça, c'est le SCAMU 21 pour Muscat 2021.
D'accord, voilà.
C'est pas plus compliqué que ça.
Le SCAMU 21, donc d'Antoine Cauchy, domaine de la Cessière, Muscat. De macération. Et là, on va partir sur un rouge. Antoine est en train de nous servir cette cuvée. Donc, j'imagine qu'il y a du Carignan.
Oui, voilà. Et donc, ce Carignan 2021, c'était un peu comme je disais, il faut parfois jongler avec, avec ce que la vigne nous donne. Et en 2021, la maturité arrivait de manière très inégale. Et puis... Bon, il y en a qui auraient peut-être attendu ou vendangé une partie de la vigne, vendangé l'autre partie 2 semaines plus tard. Moi, j'ai tout vendangé, j'ai encuvé et j'ai décuvé pour une partie la semaine d'après, l'autre partie le lendemain. Donc, j'ai fait très peu de macération. C'est une manière de s'en tirer quand on a des baies qui restent vertes parmi des grappes qui sont déjà mûres. Et puis quand on fait de si petites quantités, c'est difficile d'en laisser sur pied aussi. Des fois, c'est un peu, ça serait un peu frustrant. Donc voilà, ça donne un carignan plutôt léger, ce qui est loin de ce que je fais d'habitude. Des fois, je fais des carignans très costauds avec une grande macération, les rafles, tandis que là, c'est tout l'inverse.
Oui, c'est ce qui me vient pour connaître effectivement les carignans d'autres millésimes qui sont justement à beaucoup de profondeur. Là, on a vraiment beaucoup de facilité à boire, du coup, avec un petit fruit noir très, très agréable. Ça reste très agréable. C'est vrai qu'on reconnaît difficilement le carignan quand même, mais super vin aussi pour le comptoir, par exemple.
Oui, alors le carignan, effectivement, plutôt associé des fois pour accompagner un plat, des choses un peu costauds.
Un mais peu là, plus robuste, avec plus d'ampleur.
Alors que là, on l'imagine très bien en début de repas, un apéro, un vin très, très, très digeste. Fred, un petit complément sur cette cuvée.
J'allais dire pareil, hein, à la paille. Hein.
Ouais.
Très, très bon. Ça se des petites notes fumées aussi. Toujours la minéralité.
Très bien, ben on arrive très tranquillement au terme de cette émission. Merci Antoine Cauchy d'avoir passé du temps avec nous, nous avoir fait découvrir vos vignes, votre parcours et vos productions. Maintenant, on invite les auditeurs à venir les découvrir chez vous, à l'épicerie paysanne de Bise-Minervois ou chez nos cavistes. Merci Corinne Escafitte, Frédéric Lambeuf et Thierry Guichard qui est là, qui nous couve du regard et qui sera là pour la prochaine émission. Merci Salima aujourd'hui à la technique dans les studios de Radio Languedoc. Merci aux auditeurs fidèles qui nous suivent sur Radio Pays d'Hérault ou en podcast. Et merci à ceux qui nous rejoignent sur Radio Languedoc. Mangez bien, buvez sain, on se retrouve le mois prochain. Hey! Tampoco bala, tu que truca, tu que tac, tu que toca, tu que diga, tu que raga, tu que digo, la runa na bebe, mi luca petit capuri. En cueri coba, tu que truca, tu que tac, tu que toca, tu que diga, tu que raga, tu que diga, la runa na bebe, mi luca petit. Tampoco bala, tu que truca, tu que tac, tu que toca, tu que diga, tu que raga, tu que diga, la runa na bebe, mi luca petit capuri. En cueri coba, tu que truca, tu que tac, tu que toca, tu que diga, tu que raga, tu que diga, la runa na bebe, mi luca petit capuri.